Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Roman étonnant, instructif, vivifiant. Nous entrons dans le monde des TIC, celui des technologies de l'information et de la communication, ce monde dans lequel les jeunes évoluent avec une aisance formidable. Ils s'y expriment, s'y instruisent, ils y fraternisent, ils y aiment. Si cela peut les blesser, les perdre même, cela peut les aider, les sauver. Ilan est de cela, ce jeune garçon attachant et doué, qui cherche la vérité, l'amour et la réponse à sa soif d'absolu. On le rencontre dans ce roman intitulé « L'obsolète », édité aux éditions Saint-Saëns, et je reçois son auteur, Anne-Fleury Vacherot. Bonjour Anne-Fleury Vacherot, merci d'être venue à ce micro. Alors, je ne sais pas comment vous présenter, je vais vous dire, mais vous avez tellement de cordes à votre arc que je suis impressionnée. Plasticienne, c'est ça ?
Oui.
Oui. Bon, et puis vous avez été une élève de Boltanski. J'avais reçu un frère de Boltanski qui écrivait. Et d'Annette Messager aussi. Vous naviguez dans la culture, et vous faites. Qu'est-ce que vous faites en fait en matière de. Dans ce domaine de l'art de plastique ?
Alors, dire qu'on est plasticien, c'est un petit peu un mot tiroir. Hein. On met beaucoup de choses là-dedans.
Oui, justement. Mais vous ?
Parce que, en fait, aujourd'hui, l'artiste peintre, comme on l'appelait auparavant, il avait le pinceau et la toile. Aujourd'hui, on a tellement d'outils. On peut se servir de tellement de médiums que, du coup, on a appelé ça plasticien ou plasticienne. Et moi, c'est vrai que je vais du crayon. Au stylo, au pinceau, en passant par l'image, la vidéo, la photo, tout un tas d'assemblages, on va dire, pour arriver à dire ce que j'ai à l'intérieur de moi qui concerne l'image, mais pas seulement.
Et voilà que vous êtes passé au roman, et c'est votre second roman. Je vais vous poser une autre question. La préface a été écrite par Véronique Lévy. Alors, vous pouvez me dire un mot aussi de Véronique Lévy ?
Alors, Véronique Lévy, je ne la connaissais pas avant le mois de mars, au milieu du confinement. Et j'ai fait sa connaissance de façon tout à fait hasardeuse, c'est-à-dire uniquement par téléphone. Je cherchais effectivement quelqu'un qui pourrait éventuellement présenter mon texte. Et un jour, j'étais sur Internet et je vois passer un article de Véronique Lévy. Donc, je me dis, tiens, il m'intéresse, ça m'intéresse. Qui est cette personne ? Et je vais chercher un peu plus. Je vois qu'elle a écrit un très beau texte, parce que je l'ai lu depuis, qui s'appelle « Montre-moi ton visage ». Et qu'elle édite aux éditions du Cerf. Donc, je me rapproche des éditions du Cerf par le biais d'un mail que j'envoie. Et puis, comme on était au milieu du confinement, certainement, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, du coup, ils ont donné mon numéro de téléphone à Véronique, qui gentiment m'a appelée. Et puis, on a eu, je vais dire, un coup de cœur par téléphone. On est devenus des amis de loin, mais finalement assez proches. Mmh. Elle a compris, je crois, presque mieux que moi ce que j'avais essayé de faire. Et elle m'a accepté de me faire cette préface.
Une belle préface. Alors, pour faire rapidement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire sur votre ouvrage, elle est née d'une famille juive qui est connue. Bernard-Henri Lévy et son frère, Justine Lévy, que j'avais interviewée, je vous l'ai dit hors antenne, Justine Lévy, que j'avais également interviewée, et sa nièce, une de ses nièces, et elle faisait elle-même partie, finalement, de la jet-set parisienne. Bon, et puis, il s'est passé des choses, et finalement, elle s'est convertie. Et on fait référence, évidemment, à Jean-Marie Lustiger, on pense à lui quand on lisse sa vie, ce qui s'est passé, et elle a fait vœu, donc, de chasteté, et elle a une foi, je dirais, qui évoque celle des mystiques, Hein, et vous m'avez dit, plus le chemin est long, plus on est peut-être dans l'émerveillement, l'exaltation, hein, certainement. Voilà, et justement, elle dit à un moment donné, « Je suis au Christ, au roi des Juifs, de la terre et des cieux, au Seigneur des armées ennues. Je suis dingue du Très-Haut, qui se fit très bas, et se cacha dans la chair douce, comme du lait d'une vierge de Nazareth. Je suis de sa famille, j'ai retrouvé les miens. Je suis chrétienne, comme l'étaient déjà les prophètes, les poètes et les rois de l'Alliance française. » Alors évidemment, il y a cette très belle introduction, cette très belle préface. Vous souhaitez que ce soit moi qui la lise. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi.
Moi, je peux éventuellement lire ce que j'ai écrit moi, mais ça, c'est ce qu'elle a écrit sur moi. Donc, je ne me sens pas bien à la place pour le faire.
D'accord. Alors, je le fais. La lettre qu'Anne Fleury m'adressa pour que je préfasse l'obsolète ressemblait à un flacon lancé à la mer. Je la reçus en plein confinement. D'île en île, elle avait vogué jusqu'à la mienne et elle m'était parvenue avec en son cœur ce manuscrit étincelant comme un sourire de Dieu. Grâce imprévisible où se dévoilait la Providence. Elle m'y confiait qu'elle avait un piston au ciel qui s'était ouvert depuis que Lucas l'y attendait. Lucas, son enfant perdu dans un abîme des Alpes, un lundi de Pâques, jour mystérieux où la mort s'était invitée en cette fête de la résurrection. Désormais, ce n'est plus Anne qui met au monde Lucas, c'est Lucas qui enfante Anne au fil des mots de ce livre lumineux tissé d'une étoile à l'autre, d'une blancheur à l'autre de ses pages, ouvrant la nuit où de l'autre côté, la vie attend le bleu inentamé. Ce oui par-delà l'horizon de la mort. Je veux devenir architecte d'alphabet, chercheur d'étoiles, si tu préfères. Je le sais véritablement. Je veux dire dans mon fort intérieur que ma force viendra du ciel. Alors j'y mets mon nez, là, tout de suite, je t'écris sur mon papier recyclé, je veux travailler dans le ciel. Ces mots sont ceux d'Ilan, l'obsolète, comme il se nomme, pseudo-détail sur les réseaux sociaux, un adolescent trop clairvoyant pour ce monde, pour la vie d'ici-bas, celle qui ne sait rien pardonner. Ilan a 16 ans et 6 mois, Lucas en avait 15, mesure de ce temps trop peu écoulé et que l'éternité a cueilli en plein vol. Voilà une très belle écriture, une très belle sensibilité. Je comprends que vous ayez été en correspondance, évidemment immédiate, hein, transmission de l'esprit et du cœur. Évidemment, on pense à Lucas, et peut-être qu'en effet, c'est une manière aussi de le... pas de le faire vivre, parce que je pense qu'il vit toujours, un enfant qui est parti, et vit toujours dans le cœur d'une maman, mais il le fait vivre pour nous aussi. C'est une manière de le partager.
Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas écrit la vie de mon fils en écrivant l'obsolète. Simplement, je lui rends hommage à ma façon, en essayant de comprendre qu'elle... quel jeune homme il aurait pu devenir avec les signes qu'il nous a donnés pendant sa vie, sa courte vie certes, mais il était éclairé vraiment à l'intérieur de lui-même. Et voilà, je me suis, on va dire, beaucoup inspirée de sa vie. Et c'est également un livre que j'ai écrit, donc, je ne vais pas dire sous sa dictée, mais presque, pour Anastasia, sa sœur, notre fille.
Qui a quel âge ?
Maintenant, elle a 26 ans.
D'accord. Alors, l'obsolète, ça m'a intriguée, ce nom, parce qu'il y a plusieurs sens. Moi, j'ai vu plusieurs sens. Évidemment, ça peut être le nom du vieil ordinateur qu'a rafistolé Ilan. Bon, effectivement, il était, ça signifie « dépasse ses vieillis », mais aussi « caduque ». Et cela, comme pour les plantes qui s'étiolent, vous savez, qui disparaissent et puis revivent. Et il y a toujours une forme de permanence. Et là, n'est-il pas, justement, oui, vous l'avez dit, la permanence de Lucas, hein, a-t-il progressé comme ça ? Pour moi, ce livre pourrait s'appeler « 10 ans plus tard » ou « 15 ». Voilà. Et le dessin qui illustre l'ouvrage est très intéressant. Un être entre le ciel et la terre. Énigmatique, ce dessin.
Énigmatique. En fait, je l'ai fait vraiment en deux secondes. Hein. Je n'ai pas du tout réfléchi. Et je l'ai découvert comme vous, au bout de mes doigts. Ça m'a échappé, on va dire.
Oui.
Comme beaucoup de choses, hein.
Et mon interprétation, un être entre le ciel et la terre, c'est un peu ça ?
C'est ce que j'ai ressenti aussi en le regardant.
D'accord.
Oui.
Bon, vous voyez, bon, il n'y avait pas de code. Donc, nous faisons la connaissance d'Ilan. C'est un jeune garçon que nous allons découvrir peu à peu et comprendre comment il fonctionne, ce qui n'est pas évident déjà au départ. Mais maintenant, connaissance que je sais de certaines catégories d'enfants, je comprends que au départ, vous nous ayez égaré un petit peu, si je peux dire. C'était un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de Ilan, justement, tel que vous l'avez créé ?
Alors, Ilan est ce qu'on appelle effectivement un zèbre, c'est-à-dire un HP ou enfant à haut potentiel. Dit comme ça, c'est soit amusant, soit orgueilleux, mais dans la réalité, un enfant dit précoce peut aussi être un enfant très très malheureux parce qu'en décalage énormément entre la vie telle qu'elle est et ce qu'il est lui à l'intérieur de lui. Souvent ce sont des êtres hypersensibles et je connais justement assez bien le sujet parce que Lucas était un enfant comme cela. Du reste il est parti précocement parce que peut-être justement quelque part il avait pas de frein en fait, parce que du jour au lendemain Lucas est devenu ce qu'il était à l'intérieur de lui. À 15 ans en fait son esprit et son corps s'étaient à peu près rejoints et il avait plus de frein et hélas il a donc perdu la vie dans un élan un peu trop rapide.
Vous parlez de sensibilité, effectivement, d'intelligence fulgurante. On parle aussi, et c'est ce que l'on ressent dans votre livre, de cet aspect, comment dire, pas pyramidal, c'est pas le terme, je cherche, quand un mot va éveiller dans le cerveau de ces enfants, de ces jeunes, et puis même plus tard, différentes routes. C'est il y a un terme pour cela.
Arborescence,
ben voilà, il suffisait que je vous le demande. Cette arborescence qui déconcerte les gens, qui peut déconcerter le lecteur au début, parce qu'on la ressent cette arborescence, et qui est en même temps une richesse incroyable et qu'on n'a pas tellement encore suffisamment exploré, je pense.
Oui, ben, même moi, j'ai découvert finalement en écrivant ce livre, en me penchant vraiment sur cette question-là. J'ai découvert beaucoup de choses parce que, bon, c'est reste aussi un mystère. Mais tout enfant est un mystère, hein, qu'il soit précoce ou pas précoce, du reste. Ça n'a rien à voir avec ça.
Mais il y en a qui sont plus faciles à comprendre que d'autres.
Parce qu'ils correspondent peut-être à l'idée qu'on a de l'enfant. Mais quand un enfant est en dehors de ce qu'on avait imaginé,
voilà.
Totalement, on est démunis. Et nous avons été démunis quotidiennement.
Alors, Ilan évolue dans le monde du numérique. Et en fait, au départ, on n'a pas la clé. Vous ne nous donnez pas de clé. Vous faites en sorte de nous perdre. Il évolue vraiment dans le monde du numérique. Vous l'avez vu, ça ?
Oui. Alors, il y a une clé. C'est qu'effectivement, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la façon dont les jeunes utilisent pour pouvoir aller vers l'autre. Et nous, en plus, aujourd'hui, avec le Covid, c'est vrai que ça peut aussi leur permettre de se rapprocher. Et j'ai comparé, ça c'est une clé, Facebook, par exemple, à un hall de gare. Et voilà. Donc, effectivement, ils se promènent là-dedans, un peu comme on peut voyager quand on prend un train pour aller d'un endroit à un autre. Il le fait, mais sur l'écran.
Voilà, alors le hall de gare, oui, les trains, les rails, il le fait sur l'écran, il y a toujours une glace, une vitre, et c'est vrai qu'au début, on est un petit peu troublé, et on se rend compte qu'il y a un langage informatique, que vous utilisez très bien, et il y a également le langage des jeunes, qui jonglent sur leur portable ou leur ordinateur. Et ça, alors ça, déjà, c'est très amusant. Mais merci Anne de nous avoir mis la définition, la traduction, si je peux dire, parce que ce jargon-là, nous, les adultes, nous l'ignorons en général.
Oui, il est poétique pourtant. Et oui, il n'est pas dénué d'humour.
Oui, absolument.
Et parfois, il est très efficace aussi.
Voilà. Alors, oui, au début, on lit train, quai, fenêtre. Parfois, ça peut être un vrai train, une vraie fenêtre, mais le plus souvent, non. Ilan est un digital native. C'est-à-dire qu'il appartient à cette génération, non, née avec un smartphone entre les mains et une tablette sous le coude et qui jongle avec les écrans. Alors, ce vocabulaire, je me suis dit, c'est étonnant parce que c'est un vrai code secret qu'il y a entre eux. Il est effectif, ce vocabulaire ?
Je pense, oui. Les jeunes l'utilisent. C'est leur. Nous, on avait d'autres outils, hein, donc.
On en avait moins.
On en avait moins, mais on en avait d'autres. On les utilisait aussi et pouvait paraître également incompréhensible pour la génération au-dessus de nous. Aujourd'hui, c'est effectivement la réalité, mais ça n'empêche pas non plus qu'ils ont une vraie vie humaine où ils se rencontrent et ils éprouvent les mêmes sentiments. C'est du reste le sujet.
On va avoir, oui, bien sûr, bien sûr. Michel Serres, dans Petite Poussette, disait. Parlons de l'informatique, évidemment, et puis surtout des portables, de tout ce qu'utilisent les jeunes. Ni progrès, ni catastrophe, ni bien ni mal, c'est la réalité. Il faut réinventer une manière de vivre ensemble, une manière d'être et de connaître, mais il faut leur faire confiance. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous aussi.
Oui, tout à fait. De toute façon, je pars du principe que dès lors qu'on veut comprendre l'autre, il faut faire confiance, sinon on ne va pas y arriver.
Alors, par exemple, je vous lis juste un extrait. Je veux dire qu'on va droit dans le mur, on s'y prend pas comme il faut, on a des tonnes de choses à apprendre et on ne nous les apprend pas. Faut pleurer pour être écouté, et paradoxalement, on nous demande d'écouter des trucs qui n'ont rien à voir avec la question. Alors, si on ne change pas de trottoir tout de suite, on va se faire écraser. Et là, c'est Ilan qui parle. Est-ce qu'on peut décoder ? Enfin bon, on comprend. En fait, c'est vrai que il a le sentiment qu'en définitive, la majorité des adultes sont à côté de la plaque.
Il a surtout l'impression de ne pas être compris, en fait. Oui. Il va effectivement assez vite dans sa tête. Il a beaucoup d'outils, il voudrait les utiliser. Il a l'impression qu'il perd son temps, en fait. Mais bon, on l'a tous aussi éprouvé, hein, ce sentiment-là de pas avancer assez vite. À 16 ans, on a envie d'avoir les choses tout de suite. On n'aime pas attendre. Donc, c'était sa façon de le dire.
Oui, oui, oui. Et on voit, il y a un moment donné, il propose sur le bac, il y a beaucoup d'humour, hein, à bien des moments. Alors, je ne sais plus ce qu'il se dit au sujet du bac. Vous voyez, j'ai noté plein de petites phrases. Enfin, avec le bac, il a un problème, mais il va le passer sans aucune difficulté, mais il va s'y mettre très tard, parce qu'effectivement, il a des moyens. Deux exemples, à un moment donné, je dis ça pour nos auditeurs, qu'ils ne soient pas écrayés, parce qu'on voit Astérix, SLT, maître Jedi, mort de Dark Vador. Bon. Voilà, alors oui. Alors après, il y a « je suis désolée », alors DSO, tout un code, et ça, j'ai trouvé ça très drôle, je me suis dit, mais ils sont forts, et je crois qu'en effet, quand ils tapent sur leur smartphone, c'est ça, il faut apprendre à lire jeune.
Oui, mais je me suis un peu arraché les cheveux aussi pour écrire ce texte, vous savez, parce que j'avais pas tous les mots, j'avais pas le vocabulaire, donc il a fallu que je me renseigne.
Oui, alors justement, c'est très bon parce que vraiment, on croit que c'est du vécu. Et on commence à comprendre comment fonctionne Ilan. Ilan, comment il fonctionne selon vous ?
Par rapport à sa façon...
Oui, de mais penser.
C'est un garçon au départ, comme ses enfants dits précoces, il doute beaucoup, énormément de lui-même. Donc il a fallu qu'il apprenne à prendre confiance en lui et finalement c'est grâce à l'ordinateur qu'il a trouvé cette confiance parce qu'il était justement dans son élément avec un savoir qui arrivait très rapidement avec Internet, sans avoir besoin forcément de lever le doigt ou parler
à quelqu'un. De passer par
quelqu'un.
Oui, on va en parler. Parce que ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il fonctionne donc, on en a parlé, par association d'idées, par beaucoup de questionnements. C'est assez étonnant, ça, c'est assez fascinant, des questions qui paraissent simples, qui ne le sont pas finalement, mais ils posent beaucoup de questions, une curiosité d'esprit étonnante, et ça on le sait maintenant chez ces enfants à haut potentiel, et on le dit à nos auditeurs, c'est pas toujours quand même chose aisée d'avoir des enfants à haut potentiel dans la famille et même à l'école. Des observations de moindres choses, de détails, une intelligence toujours en éveil. Alors évidemment, moi j'ai noté beaucoup de choses qui m'ont fait rire, mais ça explique aussi beaucoup de difficultés que rencontre Ilan.
Oui, c'est pas facile, effectivement.
Non.
Il a eu beaucoup de souffrance parce que ses contemporains ne le comprennent pas. Même lui-même, il n'a pas la capacité à se faire entendre. Et c'est la première chose qui le blesse, et c'est peut-être aussi pour ça qu'un jour, il va se tourner vers plus grand que lui, et c'est-à-dire, il va lever la tête vers le ciel.
Parce que ici-bas, alors, il connaît la solitude, une forme de solitude, finalement.
Oui, bien sûr. Alors ça, je l'ai vécu aussi avec Lucas, qui a dû être déscolarisé pendant une année, et je lui ai fait la classe de sixième. Ça a pris 3 mois, parce que quand on a un enfant seul à... Ça, le programme est quand même peut être rapidement fait. Et effectivement, le seul souci que j'avais au quotidien, c'était de le remettre dans la vie, le remettre vers le monde.
Essayer de le réintégrer, oui.
Oui, et ça a été... si le programme de sixième, on a réussi à le faire en 3 mois, il a fallu 6 autres mois pour arriver à trouver le moyen de le remettre à l'école. Et on y est arrivé. Et il a fait sa dernière année de vie à l'école Montalembert, Sainte-Marie de Montalembert, dans une classe qui était une classe pour les enfants à haut potentiel, effectivement, et où là, il a trouvé sa place.
D'accord. Donc, ça signifie que même actuellement, à Toulouse, à l'établissement Montalembert, il y a une classe pour haut potentiel.
Bah ça, c'était en 2007.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe toujours ? Je ne peux pas vous le dire. Mais en 2007, oui, il y avait par niveau toujours une classe qui était accordée à ces enfants-là. Nous n'avions pas voulu le mettre dans une classe pour enfants précoces dès le départ. Bien qu'on ait su, il avait 4 ans qu'il était un enfant précoce, parce que je ne voulais pas, enfin, nous ne voulions pas le mettre dans ce qu'on pensait être un ghetto.
D'accord.
Et finalement, il l'a été, il a refait une troisième, puisqu'il était en échec scolaire, donc il a refait une troisième à Montalembert, et là, il s'est ouvert à la vie.
On va en parler. Alors, évidemment... ce que l'on note et que l'on retrouve chez ses enfants. Et votre livre peut éclairer également les parents qui ont des enfants tels. Ça intéresse tout le monde, parce que quand même, ça interpelle cette intelligence vraiment forte, démultipliée, mais aussi cette difficulté qu'ils ont à exprimer leurs sentiments, vraiment. Ça aussi, c'est assez compliqué à décoder. Et c'est vrai que les parents sont souvent désemparés, ils ne savent pas trop quoi faire. Et on se rend compte aussi que peu de gens à l'extérieur, que ce soit dans le domaine médical ou pédagogique, sont au courant. Peuvent aider. C'est très difficile. On doit toujours se relever. Et à un moment donné, la prière, c'est le recyclage de la journée.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Parce que Ilan a de l'humour quand même.
Oui, 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 voilà, il a de l'humour, mais oui.
Il est pratique, la sens pratique également.
Oui, voilà, il a le sentiment de ne pas avoir tous les codes sociaux, mais il a de l'humour, mais il a aussi les mots quand même, il a les mots. Et alors, en classe, page 32-33, je pense qu'il... Il y a un... J'aimerais que vous nous lisiez ce passage, page 32, et jusqu'à la page 33, en bas de la page 33, presque en bas.
Le fond de la salle est un lieu où je me sens à ma place, loin du cours que je survole de ma chaise à bascule. Je pianote tranquille sur le clavier de mon iPhone et je compte les heures, cherchant désespérément la véritable signification du mot « vide ». Apparaissent sur l'écran plusieurs propositions. Absence de matière dans une zone spatiale, Wikipédia, ou plus largement, qui ne contient rien, ou ensemble qui n'a pas d'éléments, Larousse. En fait, j'ai le choix entre rien, absence ou pas. Quand soudain s'ouvre la diagonale du vide, large bande allant de la Meuse aux Landes. Là, je m'arrête et bute sur le mot « écobuage » et tout part en fumée. La biodiversité des organismes vivants sort de la cendre et laisse place à un néologisme, un autre lemme, puis à lexique, idiolecte et isogloss, ligne imaginaire séparant deux zones géographiques qui se distinguent par un trait linguistique particulier, Wikipédia. Décidément, la diagonale du vide se loge partout, y compris dans mon cerveau qui se demande bien s'il doit écouter ou lire. Je m'ennuie et me sens misérable. Monsieur Coleman, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cela ?
Oui, bien entendu, la biodiversité est un mot récent, d'autant plus récent que l'intérêt pour la biodiversité prend toute sa valeur depuis les années 70, c'est-à-dire hier.
Monsieur Coleman, vous vous moquez de moi, je suppose.
Mais non, madame, le sujet est important, surtout depuis que nous prenons conscience de la valeur de ce bien commun. Nous ne devons pas ignorer que l'équilibre est fragile et que...
Ilan, tout ceci est un sujet intéressant, je vous l'accorde, mais nous sommes en cours de philosophie.
Justement, madame, philosophiquement parlant, les enjeux restent primordiaux et pas si étrangers que cela dans leur solution à ce que l'on appelle encore philosophie. Je m'explique. Nous devons être conscients de nos choix. Je veux dire qu'il nous faut, de façon urgente, maîtriser par la pensée nos actes physiques et leurs répercussions sur le monde biologique. Pendant de trop longues années, nous avons consommé trop, beaucoup et n'importe comment, et sans aucune attention aux conséquences de notre conduite. C'est à cet endroit que l'on peut se demander quelle est la place de l'homme dans la nature. En se posant en acteur responsable, il pourrait grandir, enfin, et donner à chacun de ses actes une valeur nouvelle. Seule la philosophie peut aujourd'hui réveiller nos cerveaux endormis et peut-être relever l'humain sur son socle.
Voilà un extrait, et en vous écoutant, je me disais, être un enseignant avec une classe de jeunes un peu agités, si on a un enfant HP qui résonne fort bien, qui a le vocabulaire, l'intelligence, l'acuité, ça doit être un peu déconcertant quand même. En tout cas, intéressant, très intéressant. Si vous voulez bien, je vous propose, Anne-Fleury Vacherou, d'écouter un morceau d'un Ave Maria que vous avez choisi.
Tourner vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants. Je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent salam, à ceux qui prient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je le crie haut et fort, le Christ était juif lui aussi.
Dans les saintes écritures, dans les saints sacrements, dans la Bible nouvelle, dans l'Ancien Testament, depuis Mathusalem, depuis la nuit des temps, le monde et tous les prophètes sont restés impuissants, des prières de l'Orient jusqu'au de l'Occident, des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Salam, shalom.
La guerre des religions
mission, c'est pas la religion. On est pris en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine.
Ne fais bien la paix qu'avec ses adversaires. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient Hachem, Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas. Salam Shalom.
Des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, on y est condamné.
Ave, Salam Shalom.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Anne-Florie Vacheron au sujet de son roman « L'obsolète » édité aux éditions 5 Sens. Voilà, et nous retrouvons non seulement Anne-Florie Vacheron, mais nous retrouvons Ilan, qui est un enfant hors du commun, un enfant d'une intelligence lumineuse qui raisonne, qui cherche, qui s'interroge, qui a de nombreuses idées. Et à un moment donné, on devine qu'il n'est pas heureux, qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans une classe, qu'il a du mal avec les copains, qu'il n'a pas les codes. Et il va être sauvé par le numérique. Et alors justement, le numérique, il en parle lui-même. Et Anne, vous pourriez peut-être aussi lire cet extrait que je trouve très intéressant, parce qu'on a tendance à décrier le numérique, mais dans certains cas, peut-être qu'en effet, il aide. C'est-à-dire, à la page, je pense, 101, à 10 ans, l'ordinateur. Page 101.
À 10 ans, l'ordinateur me sauva avec ses fils, ses tubes, ses entrées, ses sorties, ses connexions et son labyrinthe de tuyères innombrables. Je le trouvais dans le garage, au milieu des cartons, car il était soi-disant obsolète, et je l'éventrai. Un monde féerique s'ouvrit. Cartes graphiques, cartes son, cartes mère, processeur, lecteur-graveur, mémoire vive, et enfin, le disque dur. Je fus littéralement avalé et passé un long temps à le disséquer, puis à le rebâtir afin de lui redonner vie. Il se remit à vivre. À cet instant, la lumière revint en moi. Je demandai à papa si l'obsolète savait compter le temps, car si c'était le cas, peut-être pourrait-il m'aider à faire mes devoirs. La machine à ordonner le temps et les idées se retrouvera donc sur mon bureau, et je fus le plus heureux des petits garçons de 10 ans. J'avais ma bouche à mots.
Voilà, et c'est là où on se rend compte que finalement, nous, les adultes, nous avons tendance à regretter que les jeunes soient toujours le nez sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, et on se rend compte que parfois ça peut aider. C'est une rencontre, un pont entre cet enfant et les autres. Hein ?
Tout à fait, oui.
Oui. Bon, donc, il considère, on pense au risque d'enfermement, d'isolement, et pourtant, c'est par l'intermédiaire de l'ordinateur qui va communiquer. Bon, et le iPhone, ils disent c'est un tuyau creux. Bon, très bien. Et malgré tout cela, donc, il rencontre, il fait la connaissance de ces outils. il peut parler, il peut s'exprimer enfin, vraiment. Et comme tous les jeunes, il a une soif d'amour également. Et donc, il va rencontrer Zafira.
Oui, je dirais que pour moi, c'est le cœur du livre.
Oui.
C'est par Zafira, qui, elle, est musulmane. Alors, on peut dire aussi que Ilan est le fils d'un juif et d'une chrétienne catholique pratiquante, d'un juif non pratiquant. Et donc, il tombe amoureux de Zafira, qui a son âge et qui, elle, est musulmane. Donc, par cet amour qu'il rencontre grâce, justement, aux réseaux sociaux, il va découvrir également les différences qui peuvent éventuellement relier les hommes et non les séparer.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu une lecture qui a été déterminante chez lui, que sa mère lui a lu.
Oui, tout à fait. Il passait devant la chambre de sa maman. Je peux vous lire le passage si vous voulez. « Je suis remontée en passant par la chambre de maman d'où perçait une lumière. » Elle ne dormait pas non plus, elle lisait. J'ai frappé, elle m'a dit d'entrer. Je lui ai demandé ce qu'elle lisait. Elle leva la tête vers moi et tout en retirant ses lunettes, me dit qu'elle lisait la Bible. Maman ne dit rien après. Elle resta à me sourire tout en tapotant le rebord du lit plusieurs fois de sa main libre et m'invita par ce geste à m'installer près d'elle. Je m'assis. Avec une impatience presque fébrile, elle défroissa les draps de ses longs doigts agités et blancs et retrouva ses lunettes. Elle ouvrit le livre par le couvercle et me lut les premières phrases avec une émotion vive et douce à la fois. Et à chaque fin de phrase, elle laissa le silence. Au bout de sa lecture, elle posa le livre, ses lunettes, et leva la tête au plafond tout en me regardant et soupira d'aise. « Tu comprends, » dit-elle, « c'est magnifique, non ? Mon silence. » Soudain, je compris. Je lisais Zafira comme maman lisait la Bible.
Voilà, et je venais effectivement d'ouvrir les yeux et mon corps se déplia dans un bruit de chrysalide. Il a rencontré l'amour avec un A majuscule, l'amour de Zafira, mais l'amour également d'autre chose. Ça a été une double rencontre.
Ben, oui, il a cette sensation de comprendre que tout n'est pas sous nos yeux.
Et voilà, il part à la recherche de la Bible comme il part à la recherche de l'amour, qu'il oui. découvre peu à peu.
Oui, oui. Il le trouve dans le texte également, pas seulement dans sa vie de chair, mais également dans son âme.
Oui, et il se rend compte, la difficulté ne lui paraît pas évidente parce qu'elle est musulmane, donc il y a toute une culture différente, mais ça ne les heurte ni l'un ni l'autre.
Non, parce que en fait, il parle de Dieu,
oui.
Donc c'est le même. Nous avons Abraham en commun, il ne faut pas l'oublier.
Et c'est un même émerveillement.
Oui. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de parler de cela, mais ce livre était pour moi une façon aussi de dire ce qui tenait à cœur également à Lucas, mon fils, qui, quand il est arrivé à Montalembert, m'a dit un soir, « Maman, c'est merveilleux dans cette école parce que dans la cour de récréation, on est juifs, musulmans et chrétiens et on s'entend tout à fait.
Mmh. » Oui. Voilà, c'est un monde idéal, si on pouvait généraliser ces rencontres.
Oui, ça serait merveilleux.
Ça serait merveilleux. Alors, donc, ils sont dans le... Et avec Zafira, ils sont tous les deux exemples de préjugés, ils ne sont pas formatés, et ils sont dans le même émerveillement. Et quand il parle de Zafira, il dit « J'ai trouvé mon bâton. » C'est une... Ça marche en marche dans le désert. Il a son bâton, c'est Zafira.
Hein? Oui, oui, il est en train de le dire. Il est un homme nouveau avec son bâton.
Oui, 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 c'est ça. Il est ballotté, mais cosmopolite. Il est ouvert à d'autres cultures, d'autres codes, d'autres langages. Et c'est vrai que là aussi, c'est une incitation que nous donner à faire confiance aux jeunes, à leur montrer aussi, alors déjà à leur montrer le chemin de cette ouverture d'esprit qui peuvent avoir spontanément, hein, je pense, cette ouverture aux autres religions, à l'amour de, à l'amour des autres et à l'amour de Dieu. Et vous montrez aussi combien, à travers la poésie, il peut aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de l'universel et aussi de l'absolu. Alors, et en particulier, vous avez écrit ce qu'on appelle, on peut appeler un psaume, qui est très beau, et moi j'aimerais que vous nous le lisiez, mais d'abord, nous allons faire une pause, avant toute chose, nous allons faire une pause musicale. Et là, il s'agit non plus de... Il s'agit des Grégoriens, c'est ça ?
Oui.
Qui chante Gloria.
Oui.
The world keeps changing. I see my heart break into pieces. The time stands still. So far apart from you, we said forever, but now you're missing here, and time stands still. A thousand roads are left behind. And you
d'auteur Monique Fauché.
Dès le ventre de ma mère, je fus tiré des eaux. Je parcourus le monde dans les bras de mon père avec ma mère comme premier temple. Ensuite, j'ai marché au désert, cherchant à entendre les chants de la terre, et suis arrivé à Zafira, le port le plus loin qui soit, dans ma ville sise au pied des monts. J'ai regardé partout autour de moi et seuls ses yeux m'ont donné la lumière.
Voilà, voilà quelque chose de très beau. On aurait pu, Anne, l'écouter avant la pause musicale. Ben voilà, non, ça sera après. On ne va pas compliquer la vie de notre technicien puisqu'en ce moment, évidemment, les choses sont particulièrement compliquées, vous le comprenez. Et c'est vrai que c'est très beau et il y a des passages qui sont totalement poétiques, et donc cette rencontre de Zafira qui l'émerveille, qui le porte, qui l'emplit de bonheur, qui lui donne une ligne de conduite, je ne vais pas dire sur les rails, parce qu'on va penser que c'est encore une image d'ordinateur, mais non, et là, à un moment donné, donc, il y a un poème, puisque les psaumes sont des véritables poèmes, que vous pourriez nous lire.
Oui, avec plaisir.
D'accord.
Seigneur,
roi du ciel et des mers, et de toute la terre qui vient sous moi, parle à mon cœur et guide mes pieds. Ordonne à l'eau de me laisser passer, car ma toute belle se tient au désert sans moi. Le sable tient en mémoire ce que nous avons fait. Les heures ont passé telles les grains, mais n'ont rien retenu. Le désert est plus fort que le temps. Seigneur, ne me laisse pas périr, je suis lasse et tout petit. J'entends ta voix à l'intérieur du vent, et je l'entends partout, sur l'eau et dans la ruche, et sur les lèvres de Zaphira, je vois ton œil qui me regarde. Dans ses yeux, il y a ton visage, et je te vois sourire au sourire de sa bouche. Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Je crie et rien ne vient, je ne crie pas et tout advient. Tu aimes le silence, toi qui fis le Verbe, et mis sous nos pieds des montagnes et des mers. Quand Collioure l'accompli me couvre de son ombre, j'entends la mer monter. Et me voilà, Seigneur, tout petit à tes pieds, et je te prie le soir avant de m'endormir, comme elle le fait aussi Zaphira, l'étrangère. Les hommes nous séparent et nous mettent en prison, et ils ne sont pas dignes d'être appelés des hommes, car ils sont nés libres tous et sans le nom d'étrangers. Pourquoi, mon Dieu, veulent-ils te tuer, quand je sais que pour eux tu te tiens à l'écart? Ton silence est parole, et les mots que l'on dit sont échos de ta voix. Alors donne-moi de trouver parmi ceux que je dis la parole de celle. Puis le silence me couvrit dans l'ombre de la terre, et la lumière se fit sous la lune, comme un rond dans l'eau au large de Collioure. Et le sommeil vint sur moi comme un baiser, et je dormis tranquille, la bouche sans les mots.
On est fasciné par votre style, Anne. Quelque chose à la fois très poétique, de très imagé, avec des fulgurances. Et effectivement, je parle d'images, des choses superbes. Et à l'instar de ce jeune garçon à qui vous prêtez, vous donnez, redonnez vie, ce garçon qui essaie, qui veut et qui arrive à lire le monde, à établir des connexions, à s'expliquer les choses. Il est curieux de tout et je trouve ça fascinant. Il est curieux de la nature qu'il aime, il est curieux des gens avec qui il a plus de mal, mais il est curieux de Zaphira qui, elle, est son élue. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que pour lui, c'est une révélation et une aide merveilleuse.
Oui, c'est comme tous les premiers amours, hein, c'est fulgurant. Hein, la première fois qu'on aime, je pense, à 16 ans, c'est presque la plus importante. Elle va porter après, si celui-là ne dure pas, le grand que l'on connaîtra plus tard.
Oui. Alors, parfois, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il y avait beaucoup d'humour, mais parfois, oui, effectivement, il y a de l'humour. Puis parfois, il part en vrille. Ah, oui. On est d'accord. On se dit, mais où il va, là? Où est-il? Oui, alors, il y a une histoire de bosquet, je ne sais plus, il s'est perdu. Il joue avec les mots. Beaucoup de jeux de mots, justement. Et à la fois, beaucoup de poésie. Alors donc, évidemment, cette relation à Dieu, et c'est vrai que c'est peut-être que Zaphira est son bâton, mais peut-être que ça va être également un petit escabeau pour l'aider, pour le faire monter, il me semble. En tout cas, à un moment donné, ce qu'il dit... Il se pose des questions, hein. Beaucoup. Le monde se bat au nom de Dieu. Chacun se ligue contre l'autre au nom de Dieu. Et cela depuis le début de l'histoire de la vie. C'est une force de mort. Et Dieu est à l'origine de notre toute vie. Ça va vraiment pas ensemble, cette histoire de mort à l'intérieur de la vie. Et ça me rend énormément triste. Je ne connais rien au détail de cette zizanie populaire et vulgaire, assassine et menteuse. Je sais... juste que nous sommes tous amoureux de la liberté et de la vie, et que celui qui dit le contraire tue son frère au nom de Dieu. Pourtant, nous avons tous le même Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu vont au même endroit. Simplement, cela avance sans boussole et ça les regarde. Moi, j'avance avec Dieu et ça me regarde aussi. Zafira avance avec Dieu et ça la regarde aussi. Dieu nous regarde tous aussi différemment que nous sommes. Il est le soleil dans le ciel et il éclaire chacun de nous sans regarder comment nous prions ou nous ne prions pas. Je sais, tout ça n'est pas très original comme réflexion, mais pourtant, ce que je vis est très original. J'ai cette sensation intime que ce que nous vivons est unique. Dans le grand ciel, nous sommes deux étoiles uniques du nom de Zafira et du nom d'Ilan. Et oui, c'est le premier amour, c'est un très bel amour. Et c'est vrai que quand on voit ces luttes actuellement entre religions, on ne peut être qu'attristé.
Oui, c'est vrai. Ilan déteste la guerre. Il dit, quand on tue un homme, on les tue tous en lui. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose également qui le meurtrit. On ne va pas raconter toute l'histoire du livre.
Mais non, bien entendu que non. Et on ne va pas raconter non plus comment se termine cet ouvrage. En tout cas, c'est un ouvrage extrêmement original qui nous fait entrer dans le monde des jeunes, déjà. Après, dans le monde de jeunes aussi, qui sont particuliers. Mais en même temps, c'est bon, version XXL, hein, on va dire. Ce sont des jeunes XXL, non ? Alors, oui. Et ensuite, on rentre dans ce monde des jeunes qui ont cette soif d'absolu, cette recherche de la vérité, cette recherche de, ben, qui répond à pourquoi suis-je de ce monde. Et ça, je crois que beaucoup de jeunes se posent encore cette question.
Oui, et puis c'est ce que j'ai voulu faire aussi, c'est un livre sur l'espérance. C'est par eux, par les jeunes, que nous pouvons nous en sortir.
Oui. Oui.
Ils tiennent la lumière, il ne faut pas l'oublier.
Et en fait, c'est une histoire aussi qui veut gommer les différences, qui veut montrer non pas les différences, mais tout ce qui nous unit.
Oui, je pense que c'est par les différences qu'on peut rester entier.
Oui, et ça fait notre richesse.
C'est la richesse,
tout exactement.
À fait.
Exactement. Oui. Voilà, un grand merci Anne-Fleury Bachereau, un grand merci pour cet ouvrage particulièrement original et qui intéressera pas que les parents, mais bien sûr les parents, les jeunes. Je pense que les jeunes adolescents et grands adolescents peuvent être très intéressés par votre ouvrage. Il est intitulé L'obsolète. Alors l'obsolète, votre traduction c'est laquelle ? Pourquoi l'obsolète ? C'est le nom de l'ordinateur.
Oui, officiellement, mais également, Ilan avait cette sensation d'être obsolète.
Nous sommes tous obsolètes.
Oui. Merci beaucoup.
Un grand merci.
Monique, merci.
Au revoir.
Beaucoup.